le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. Nous recevons aujourd'hui le professeur Michel Bertrand, qui, à la demande de la Fédération protestante de France, a coordonné un ouvrage collectif intitulé « Les protestants, 500 ans après la Réforme », avec en sous-titre « Fidélité et liberté ». Un ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions Olivetan. En effet, 2017 marque les 500 ans de la Réforme, ou plus exactement les 500 ans de la publication des fameuses 95 thèses de Luther qui sont à l'origine de ce qui deviendra le protestantisme. Et ce mois d'octobre est donc le point d'orgue de cette année de commémoration, puisque c'est un 31 octobre que Luther aurait placardé ses fameuses thèses. La Fédération protestante de France à cette occasion lance une invitation à Strasbourg pour les 27, 28 et 29 octobre à l'occasion de Protestants en fête 2017 autour du thème « Vivre la fraternité ». Alors Michel Bertrand, Luther, qui a changé, il faut bien le dire, le cours de l'histoire, certains voient en lui un antisémite primaire, d'autres un homme incohérent qui n'a pas hésité au moment de la guerre des paysans à inciter à leur massacre, d'autres le voient plus comme un théologien de génie. Pour vous qui étiez Luther, est-ce qu'on peut aujourd'hui tracer un portrait de Luther ?
C'est très difficile de tracer un portrait global de Luther. Je crois que ce qu'il faut souligner lorsque on veut commémorer, comme on le fait en ce moment, c'est toujours d'éviter deux écueils. Le premier, c'est effectivement, vous l'avez dit, d'idéaliser, hein, de faire de Luther un saint. Or, je crois qu'il ne faut ni l'admirer abusivement, ni l'accabler indûment. Parce qu'il faut jamais méconnaître l'épaisseur du temps et toujours replacer les personnages de l'histoire dans leur propre contexte. Ce qui m'amène au deuxième risque que l'on peut courir, c'est celui que l'on appelle de l'anachronisme, qui consiste à projeter sur le XVIe siècle nos préoccupations de femmes et d'hommes du XXIe siècle, ou au contraire d'essayer de plier à tout prix certaines intuitions de Luther à notre contexte contemporain. Alors il faut y être d'ailleurs d'autant plus attentif que mon propos, mon centre d'intérêt, c'est pas de présenter un parcours historique de Luther, c'est pas de présenter les grands principes théologiques de la Réforme auxquels les protestants continuent d'être attachés et dont ils continuent de vivre, mais c'est plutôt d'essayer de pointer comment certains aspects de la pensée de Luther peuvent rejoindre non seulement des chrétiens, mais l'ensemble de la communauté humaine à travers certaines tendances de notre société aujourd'hui.
Oui, parce que Luther était un homme du Moyen-Âge, il s'adressait à une société qui n'avait pas du tout les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui. Alors comment comprendre sa pensée aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'est plus à s'intéresser beaucoup à notre salut, alors que c'était vraiment une préoccupation de la société de Luther, où les gens tenaient absolument à s'acheter. Alors à l'époque, on s'achetait des indulgences pour s'acheter le paradis.
Oui, vous avez raison, bien entendu, que des questions comme celles qui habitent le combat de Luther et ses préoccupations et sa recherche, c'est-à-dire effectivement la question du salut, on pourrait même dire l'angoisse du salut au XVIe siècle. Le salut, c'est une notion, un mot même, que souvent nos contemporains ignorent ou ne connaissent pas. Par contre, ne sont-ils pas encore habités par des questions qui finalement sont quand même très proches, c'est-à-dire le sens de l'existence humaine, les finalités de l'existence humaine, les conditions d'un bonheur possible, d'une vie réussie, l'attente dans une société, dans un monde qui paraît souvent bloqué et inquiétant, d'une autre réalité, d'une confiance et d'une espérance. Et si on entend effectivement que ces quêtes persistantes demeurent dans la société, alors moi j'ai le sentiment que la logique des mérites, puisqu'il s'agissait de mériter son salut au temps de Luther, cette logique des mérites contre laquelle il s'est élevé n'a pas totalement disparu. Et ça m'amène à un premier défi que nous avons sans doute à relever, qu'on pourrait appeler le défi de la société de performance. En effet, nous vivons dans un monde où ce qui prédomine, ce sont les logiques de l'efficacité, de la rentabilité, de la réussite, de la compétition. Très récemment, j'ai entendu aux informations, comme tout un chacun, cette possibilité que les fonctionnaires allaient être rémunérés au mérite. Oui. J'ai dit, ah tiens, les mérites, c'est un vocabulaire du XVIe siècle. Oui. Mais c'est assez intéressant parce que ça montre qu'on est dans la même logique. On est dans la même logique où il faut faire ses preuves, où il faut assurer dans tous les domaines, où il faut se réaliser par son faire, par ce qu'on réalise, par ce qu'on accomplit de bien. Avec, bien sûr, la conséquence souvent dramatique que beaucoup de nos contemporains aujourd'hui n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à répondre à cette logique de la performance, de la rentabilité. Ils n'arrivent même pas toujours parfois à sauter la barre qu'ils ont eux-mêmes placée si haut. Parce qu'on leur a dit que pour être reconnu, aimé, valorisé, eh ben, il fallait être à la hauteur. Oui. Et quand ils constatent qu'ils n'y sont plus à la hauteur, eh bien, c'est quoi? C'est la souffrance au travail, c'est le fameux burn-out, c'est la dépression, c'est la souffrance psychique. Et il faudrait aussi parler de tous ceux qui ne travaillent plus, de ceux qui sont laissés sur le bord de la route, ceux qui, par rapport justement à ces logiques des mérites, ces logiques des performances où la vie doit se mériter, ben, ils ont le sentiment qu'ils ne servent plus à rien dans ce contexte-là. Les personnes âgées, les handicapés, oui. Les chômeurs, les retraités, les déclassés de toutes sortes.
Et là, du coup, comment la pensée de Luther peut nous sortir de cet écueil?
Qu'est-ce qu'il a dit, Luther, par rapport à son temps, qui était obsédé par la question du salut? Que faut-il faire pour être sauvé? C'est de leur dire, vous n'êtes pas sauvés par vos mérites, qu'ils soient spirituels, religieux ou autres. Vous n'êtes pas sauvés par vos bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvés par ce que vous faites, mais par ce qu'un autre, Dieu, ce qu'un autre a fait pour vous, par amour inconditionnel. Bien, il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes auraient besoin d'entendre cette parole, qui leur disent, tu as du prix, tu es aimé par un autre. Cet autre pourra être un proche, oui. Des autres pourront être les proches, mais aussi, dans la foi, c'est Dieu lui-même. Tu es aimé sans condition, par-delà tes réussites et tes échecs, par-delà tes performances et tes fragilités.
Alors, dans cette société de performance, il y a aussi un changement peut-être par rapport à la société dans laquelle évoluait Luther, c'est que on s'enferme, on se dirige de plus en plus vers un individualisme.
Oui, c'est effectivement un peu aujourd'hui, j'allais dire quand on en parle, une banalité de dire qu'on vit dans une société extrêmement individualiste, alors qu'effectivement celle de Luther, c'était un corps social. Il y avait une cohésion communautaire, même s'il y avait aussi beaucoup de tiraillements, de souffrances, d'affrontements. C'était une société très hiérarchisée, avec des castes, avec des ordres, etc. Aussi bien sur le plan politique d'ailleurs que sur le plan de l'Église. Aujourd'hui, on est dans une société très individualisé, mais un individu qui se caractérise par, je dirais que par une quête de liberté à la fois très grande, mais aussi très, j'allais dire très égoïste, très centré sur lui-même.
Oui, c'est ça.
L'individu prétend trouver en lui-même son propre fondement. Il n'a de compte à rendre à personne. Pour le dire comme ça, d'une phrase facile, l'important c'est que je me réalise, que je m'épanouisse, où je veux, comme je veux, quand je veux, que je m'éclate, quoi.
Il y a un petit peu une résonance avec une espèce de spiritualité protestante qui dit qu'on est seul responsable devant Dieu.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc voilà par exemple une tendance de la société contemporaine qui n'est pas sans écho chez Luther. Parce que Luther va être aussi, j'allais dire, l'apôtre de la liberté, de la responsabilité. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il a même changé son nom.
Ah oui,
il s'appelait,
c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup.
Luther au départ, oui. Et il a construit Luther sur un mot grec, sans faire de pédanterie, Eleutherios, qui veut dire libre, libérateur. Luther est devenu le libérateur. Donc il est très attaché à la question de la liberté. Sauf, et c'est pas forcément bien recevable par le monde contemporain, sauf que la liberté chez Luther, c'est pas la liberté de faire ce que j'ai envie de faire.
Oui.
Et quand j'ai envie de le faire.
Alors c'est la liberté de quoi?
Alors la liberté chez Luther, elle a sa source, pour lui, croyant, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est son attachement à Dieu, son attachement au Christ, qui est la source de la liberté. On pourrait en parler comme d'une liberté paradoxale.
Voilà, oui.
D'ailleurs, lui-même en parle avec les mots de la servitude. Hein, il y a un moment célèbre quand il comparaît pour répondre de ce qui lui est reproché, notamment par l'Église et au-delà par l'Empire. Il dit « Je suis lié par les Saintes Écritures. Ma conscience est liée. Je ne puis autrement. » C'est-à-dire qu'il est libre, mais c'est le Christ qui lui donne cette liberté. Cette liberté, c'est pas celle que je conquiers par mes seules forces. C'est pas celle que je m'attribue. C'est celle qui m'est donnée. Et s'il y a un homme qui a été un homme libre, c'est Luther. Mais il est libre dans la mesure où il trouve en Dieu la source de cette liberté. Et chez Luther, le lieu dont il va d'ailleurs donner une définition assez spécifique, où tout ça se passe, c'est la conscience. Luther va beaucoup parler de la conscience. La conscience est un lieu à la fois très intime, très profond, le fort intérieur, et en même temps constamment sollicité par ce qui lui vient de l'extérieur, à lui-même.
Oui.
C'est-à-dire, d'un côté, les puissances de ce monde, les sollicitations de ce monde, les idoles de ce monde, ses envies humaines, ses désirs, et puis, de l'autre côté, la parole de Dieu, qui l'appelle à entrer dans une vie nouvelle, à mener une vie nouvelle. Et donc, la conscience chez Luther, c'est une existence tiraillée, d'où l'importance chez lui du dialogue intérieur, de la vie intérieure. C'est dans cette conscience, parfois tiraillée et déchirée, et Dieu sait qu'elle l'a été chez Luther, qu'il va trouver la force de se tourner maintenant vers les autres et vers le monde qui l'entoure. Étonnamment, là encore, on retrouve une sorte de paradoxe, hein, il va assumer cette dimension fondamentale de l'intériorité, et en même temps, il va puiser dans cette intériorité l'obligation, d'une certaine manière, de s'ouvrir vers les autres. Mmh. Cette introspection ne débouche pas sur une introspection solitaire, mais sur une manière d'exister, au sens presque étymologique, de sortir hors de soi. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il va énormément valoriser les engagements profanes du chrétien dans le monde. Hein, il dira, on n'est pas meilleur chrétien en entrant au couvent qu'en fondant une famille. C'est dans sa vie de tous les jours que le chrétien est appelé à vivre de cette parole de Dieu, vivre de cette vie nouvelle, et du coup se mettre au service des autres.
La liberté de se mettre au service en étant fidèle à la parole de Dieu comprise par Luther.
Tout à fait. Et la capacité de résister. Résister au pouvoir, en l'occurrence, de l'Église et de l'Empereur.
Donc, une liberté paradoxale, mais qui met en mouvement.
Oui, absolument.
Et qui met en mouvement vers les autres. Oui. Alors, il y a une formule que je trouve très jolie que vous employez dans vos conférences, que vous empruntez à Gabriel Vahagnan. Ayant renoncé à changer le monde, nos contemporains sont invités à changer deux mondes.
Oui, nous sortons d'une période, hein, celle du XXe siècle, qui a été la période des grandes idéologies, des grands systèmes interprétatifs du monde, et qui étaient des moteurs pour transformer le monde. Hein. Quand on pense à ce qu'a été le marxisme, par exemple, et on était dans une société où, après la libération, pendant la guerre elle-même, mais après la libération, il fallait changer. Il y avait des projets communs, il y avait une volonté de construire quelque chose. Or, aujourd'hui, se changer le monde, c'est un peu effacé. Le monde est perçu comme inquiétant. La vie privée est vécue comme une valeur refuge, ou bien c'est le repli communautariste, on se replie sur son groupe, on se replie sur les siens, on a plutôt une société émiettée d'individus et une société émiettée de communautés diverses qui n'arrivent pas toujours à vivre ensemble. Et cela débouche du coup sur une perte de la visée commune. Oui, alors on le voit bien dans certains mouvements spirituels, y compris certains qui se disent chrétiens. Si le monde présent est si douloureux à vivre, alors on va essayer de le quitter. Mmh. Avec parfois des aberrations, hein, certains qui les suicides collectifs dans tel ou tel... Mais sans aller jusqu'à ces excès, on se replie sur son petit groupe chaud et fusionnel, quoi. Hein. Voilà, alors on change de monde. Le monde est trop difficile, alors on se construit notre petit monde. Et par rapport à ça, le message de Luther est tout autre. J'allais dire à ces extases hors du monde, Luther rappelle l'exigence vécue pour le croyant d'une foi vécue au cœur du monde, service du prochain, à travers ses engagements les plus profanes. Et notamment, c'est la raison pour laquelle il va, on peut dire que Luther a conduit une réflexion avec les politiques, mais il a conduit une réflexion politique. Il nous faut entendre cette proposition qu'il nous fait de faire société dans une société qui aujourd'hui en a un peu perdu l'envie. Et notamment, Luther va souligner l'importance des médiations sociales et politiques. Alors, c'est intéressant de l'entendre dans un contexte où elles sont particulièrement décriées, stigmatisées, ouais, disqualifiées, ouais, discréditées. Nous sortons d'une période quand même qui est celle d'un grand chambardement, mais quand même sur le fond de beaucoup d'abstention, d'indécision, c'est-à-dire d'une désaffection à l'égard de la chose publique. Luther, lui, va beaucoup s'impliquer dans les combats de son temps, et notamment, il va définir la relation du croyant au politique suivant un modèle qui est resté assez célèbre, qui a parfois été mal compris, qui a été critiqué, mais ça c'est légitime, qui a été parfois caricaturé, ça l'est moins, c'est ce qu'on appelle la doctrine des deux règnes.
C'est ça. Ça veut dire que on est à la fois dans un monde qui est occupé, géré par les humains, et d'un autre côté, le règne de Dieu qui nous met en mouvement. Est-ce que c'est comme quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César » ?
Oui, tout à fait. Ce que vous dites là résume bien cette doctrine des deux règnes, qui mériterait bien sûr de plus ample développement, mais on peut aussi le formuler à travers la parole de Jésus. Quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il dit une chose simple. Il dit « Il faut respecter les autorités ».
C'est ça.
Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire que César n'est pas Dieu.
Mmh. Oui.
Et donc, c'est pas un absolu, et qu'il faut donc pouvoir le contester. On pourrait aussi utiliser deux autres références bibliques, hein, celle de l'apôtre Paul, que Luther lisait beaucoup et a beaucoup travaillé, qui dit en Romains 13, « Soyez soumis aux autorités,
ouais,
car elles exercent un pouvoir de la part de Dieu. » Mais c'est Pierre aussi qui dit dans le livre des Actes, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a dans le rapport aux politiques, chez Luther, une tension. On retrouve toujours cette idée de tension chez Luther. Hein. Et du coup, un déchirement possible pour le croyant. Dans cette situation, est-ce qu'il faut que j'obéisse à Dieu ou est-ce qu'il faut que j'obéisse aux hommes, hein? Alors, c'est toujours dans des situations limites. Dans la vie de tous les jours, le chrétien protestant, il mène une vie normale. Mais par rapport à certaines situations, prenons aujourd'hui la question des exilés, de l'accueil des exilés. Un certain nombre d'hommes et de femmes non chrétiens, mais aussi de chrétiens, se mettent en délit de solidarité. Et c'est pour ça que je pense que la position de Luther quant au rapport entre le spirituel et le temporel me paraît extrêmement fécond encore aujourd'hui. Même si, vous l'avez très justement rappelé en évoquant la guerre des paysans, je considère, moi, qu'il n'a pas été cohérent avec ses propres principes.
Ouais.
Mais là encore, ne l'accablons pas, il était au XVIe siècle, à une époque où cette distinction entre le spirituel et le temporel n'existait tout simplement pas.
Oui.
Enfin, je veux dire, dans la pratique, il y avait bien un empereur et un pape, mais je veux dire, tout ça fonctionnait ensemble. Et Luther va dire, entre le spirituel et le temporel, il ne doit y avoir ni confusion, ni totale séparation.
C'est ça.
Mais il doit y avoir une distinction, les deux règnes, et une articulation. Ce qui est, je trouve, très intéressant aujourd'hui par rapport à certaines tendances religieuses qui sont quand même de type théocratique et qui voudraient imposer leurs normes religieuses à l'ensemble de la société.
Mmh.
Mais c'est aussi une interpellation à un certain nombre de postures laïques qui ne sont pas celles de la loi de 1905.
C'est ça.
Hein, ouais. Qui en sont des errances ou des avatars.
On va parler de laïcard, en fait.
Voilà, de laïcard ou de laïcisme sectaire, mmh, qui voudrait réduire les religions au silence dans l'espace public.
Voilà.
Ce qui n'est pas la loi de 1905.
Ben justement, alors là, on arrive à un autre pan de la réflexion qui est la religion dans la société.
Oui.
Comment se placer? Comment Luther pouvait vous aider à nous placer, oui, peut-être dans la société, alors dans sa société, mais dans la nôtre, mmh, aujourd'hui, mmh, qui est quand même méfiante à l'égard, mmh, des religions.
Pas d'anachronisme. Luther n'a pas inventé la laïcité. Il n'a pas écrit la loi de 1905, ça se saurait.
Ouais.
Mais il a posé les prémices,
oui,
de la laïcité au sens large, c'est-à-dire d'un monde qui s'émancipe de la tutelle des religions. Mais pour autant, les religions ne sont pas relégués à la seule sphère privée. Et donc, Luther va dire aussi des choses essentielles dans le contexte qui est le nôtre, où, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on en dise, le religieux demeure très présent. Malheureusement, plus souvent par le pire que par le meilleur. Dans notre monde aujourd'hui, on voit bien que le religieux contribue à légitimer un certain nombre de violences, de haines, de souffrances infligées, notamment aux femmes, oui, au nom de Dieu. Dans notre propre pays, les attentats terroristes ont largement contribué à nourrir, à alimenter, à amplifier une méfiance à l'égard des religieux, du religieux, des religions, comme si elles étaient toujours, au fond, en danger d'intolérance. Et je crois que les croyants, les chrétiens, mais les autres religions, doivent toujours réfléchir à cette possibilité qui semble liée aux religieux de produire l'intolérance et le fanatisme. Ce qu'Olivier Roy a appelé les pathologies de la croyance. Et le meilleur moyen de s'en prémunir, eh bien, c'est de reconnaître qu'il y a toujours du religieux dans la société. Qu'il ne s'agit pas de le refouler, qu'il ne s'agit pas de le nier. Il y en a toujours.
Oui.
Et ça, Luther l'a dit. Il a dit, il y a toujours du Dieu. Mais ce qui est vrai des religions, l'est aussi, peut l'être d'une idéologie. C'est-à-dire, chaque fois que l'on pose une vérité humaine... Comme un absolu. Ouais. Je rappelle que absolu, ça vient de absolus, à partir de soi seul. Ça veut dire que quand on a posé ça en absolu, il n'y a plus rien d'autre.
Mmh.
Et du coup, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte, effectivement, au fanatisme, à la tyrannie, à la tyrannie, ouais, des consciences, etc. Donc, Luther s'opposera, y compris dans ce domaine à lui, qui est celui de la foi et de la théologie, à ce qu'on prétende mettre la main sur Dieu, à ce qu'on l'emprisonne, en quelque sorte, qu'on le chosifie. Un autre réformateur, Calvin, ouais, dira la même chose. Il ne faut pas enfermer Dieu. On ne peut pas poser... sa conception de Dieu comme un absolu.
Voilà.
Dieu, on pourrait le dire autrement, on n'y accède jamais, c'est une de ses expressions, dans sa nudité,
mm-hmm,
on pourrait dire Dieu en soi.
Oui.
Il dit, nous n'avons accès à Dieu qu'habillé de langage.
C'est
le langage
la
humain,
c'est
la très... parole, oui, les textes théologiques, la Bible, les rites, les représentations et les institutions ecclésiales. Toutes ces choses parlent de Dieu. Renvoie à Dieu, appelle éventuellement à la foi, mais toutes ces choses-là ne sont pas Dieu. Et dès lors qu'on en fait des dieux, alors à ce moment-là, on les absolutise, et du coup, c'est, je le redis, la porte ouverte. Et
oui,
il va appliquer ça d'ailleurs dans différents domaines, hein, bon, il y en aurait de multiples, mais j'en donne juste trois pour illustrer. Les rites,
oui.
Il n'est pas contre les rites, Luther. Ils sont des langages humains qui sont utiles, donc il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, mais surtout, il les refuse s'ils prétendent mettre la main sur Dieu. Il va dire la même chose à propos de l'Église. C'est pourquoi, pour les protestants, l'Église, elle n'est pas d'institution divine. Et puis, le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est la Bible.
Oui.
C'est-à-dire que la Bible, ce sont des langages humains. Ce qui est la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre du texte. C'est à travers la lettre du texte, à travers les textes, où des hommes et des femmes, des siècles passés, ont exprimé leur foi... qu'une parole de Dieu, que la parole de Dieu peut nous rejoindre aujourd'hui. Alors bien sûr, Luther appellera à respecter le texte, mais la parole de Dieu ne s'identifie pas avec le texte. C'est la raison pour laquelle, dans les églises protestantes, la prédication au cours du culte est un moment important. S'il suffisait de lire la Bible pour entendre la parole de Dieu, ce ne serait pas la peine que les pasteurs se fatiguent,
oui,
à prêcher le dimanche matin.
Mais là, cette notion du statut du texte que vous évoquez n'est pas non plus unanime dans le protestantisme aujourd'hui.
Tout à fait.
Et
oui,
ça apparaît aussi dans le livre que j'ai présenté au début.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi, effectivement, à la fin de ce livre, on n'a pas voulu cacher qu'il y avait au sein du protestantisme un certain nombre de débats concernant l'interprétation d'un certain nombre de réalités, notamment notre rapport au texte. C'est l'indication au passage, l'indice, que chez les protestants, il n'y a pas de magistère qui décide de tout.
C'est ça.
Et donc, il y a une grande diversité qui est ouverte, en quelque sorte, par ce processus d'interprétation, aussi bien du texte biblique que des textes théologiques, que du fait religieux lui-même. Et je veux saluer la contribution d'un certain nombre de théologiens, de l'avoir fait avec autant Oui, de pertinence, de respect de l'autre et d'intelligence par rapport à la question posée.
Alors, je rappelle le titre de ce livre que vous avez coordonné à la demande de la Fédération protestante de France, « Les protestants, 500 ans après la réforme, liberté et fidélité ». Nous arrivons à la fin de notre émission déjà. On aurait eu encore beaucoup, beaucoup de sujets à discuter, mais nous nous dirigeons là maintenant vers Protestants en fête. Protestants en fête, le dernier week-end d'octobre à Strasbourg, sur le thème « Vivre la fraternité ». Alors pour terminer, j'aimerais vous demander peut-être un ou deux mots pour dire à nos auditeurs qu'est-ce que c'est pour vous la fraternité.
La fraternité pour le chrétien, et je pense dans la ligne de Luther et dans la ligne de Paul, c'est la possibilité d'abord dans l'Église pour des hommes et des femmes différents qui ne se sont pas choisis, qui sont donc très singuliers, d'être néanmoins en communion par-delà la diversité. Non seulement à cause d'une loi extérieure, non seulement à cause de leur effort personnel, qui est bien sûr à attendre, mais à cause du Christ lui-même. C'est leur commune foi au Christ qui leur permet de vivre ensemble sans être tous pareils. C'est le grand texte de Paul aux Galates, hein. Désormais, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. C'est-à-dire que vivre en Christ, vivre dans l'Église, ça ne supprime pas les différences, mais ça nous amène à une sorte de mise en indifférence de nos différences. Oui. Mise en indifférence de nos différences. Ah oui, elles continuent à exister, mais elles deviennent relatives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Elles ne sont pas niées, mais elles ne sont plus l'ultime. Elles ne sont plus posées comme un absolu, justement.
D'accord,
puisque
oui.
L'absolu, c'est ce qui me lie, moi, au Christ. Alors, ça concerne l'Église. Maintenant, et notamment Alain Badiou a trouvé chez l'apôtre Paul de quoi peut-être éclairer aussi notre vivre ensemble sociétal, je crois que c'est le grand défi de nos sociétés aujourd'hui. Ces sociétés homogènes, qui partageaient toutes les mêmes valeurs, dont on disait c'est les valeurs judéo-chrétiennes, etc. Cette société-là, elle n'existe plus. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, elles sont devenues plurielles, multiculturelles, métissées. Donc le grand défi, c'est comment être ensemble. Est-ce que pour être ensemble, il faut être tous pareils? C'est une sorte d'uniformisation qui rabote toutes les différences, pour entrer dans le moule. Assimilation, simoule, pareil. Et puis, de l'autre côté, il n'y a plus qu'à se replier chacun sur sa communauté, puis on va cohabiter les uns à côté des autres, en attendant qu'un jour on se tape dessus, hein, parce que nos différences seront insupportables à autrui. Eh bien non, il y a un chemin, une ligne de crête à trouver, d'unité dans et par la diversité. Et être frère qui vivent ensemble, c'est au nom d'un projet commun pour faire société ensemble, alors effectivement, chacun peut continuer à vivre dans sa diversité, dans sa différence, sans qu'elle devienne ni agressive à l'égard de son frère, ni qu'elle perturbe le vivre ensemble.
Michel Bertrand, merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec nos auditeurs et nous éclairer sur Luther et son actualité encore aujourd'hui, à la suite de ce livre « Les protestants, 500 ans après la réforme » que vous pouvez trouver chez Olivetan. Nous terminons ainsi ce service protestant. Merci de l'avoir suivi. Merci à Clotilde Pivin et à Alain Joubert pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et je vous invite à rester à l'écoute de France Culture pour le journal dans quelques secondes. Et Marc-Alain Wachnin, tout de suite après, avec Talmudic. Bon dimanche.